ce soir, j'explore la surface de mon love. Je me pose en douceur et j'effleure mon love. Jusqu'à là, les collines divines de mon love. Le drapeau de l'amour bien planté sur mon love. Dance for me, moon love goddess. A dance, dance, dance for me, moon love this. A dance, dance, dance for me, moon love goddess. A dance, dance, dance for me, moon love this. A dance, dance, dance for me, moon love this. Ha, moon love goddess, say my moon love this. Dance, dance, dance for me, moon love this. Ha, moon love goddess, say my moon love this.
Arthur H et la pièce Moon Love Deus.
Actualité culturelle, je vais lire la chronique d'Odile Tremblay, Cinéma, la mélancolie des fins de parcours. Il y a une dizaine d'années, j'avais couvert à quelques mois d'intervalle les festivals de films de Reykjavik en Islande et de Marrakech au Maroc. Hasard ou destinée, Miloš Forman, disparu vendredi dernier, recevait un hommage à chacune de ces manifestations et j'avais pu l'observer à ma guise. Les hommages le laissaient froid et il n'aimait guère se sentir momifié vivant. Tout son être le criait. Il faut dire que ces coups de chapeau ont souvent un côté mortuaire, fleurs et couronnes offertes à des cinéastes qui ne tournent plus ou peu, avec du temps libre pour la tournée des éloges. Son précédent film, Les fantômes de Goya en 2006, fresque sur les démêlés du peintre de tresses de Mayo, avec l'Inquisition espagnole, n'avait pas connu le succès escompté, et Forman cherchait vainement à financer une grosse coproduction sur la dernière guerre. Il ne se déplaçait manifestement dans ses rendez-vous que pour la quête de partenaires financiers, lesquels lui filaient entre les mains. Miloš Forman vieillissait et avait perdu la cote. Sa tristesse se faisait peine à voir. Le cinéaste de Volodyni Koukou se propulsait dans un futur qui ne voulait guère de lui, et je pouvais constater à quel point une immense carrière en déclin peut causer de souffrance à ceux qu'on appelle les monstres sacrés. Encensés à plein média à l'heure des triomphes et au lendemain de leur mort, mais ayant connu avant terme un passage à vide. Il n'est pas toujours aisé d'avoir fréquenté les cimes. Plusieurs en gardent une nostalgie, surtout quand ils se sentent encore capables de relever de nouveaux défis. L'âge des rétrospectives dégage un tel parfum de mélancolie. Nos sociétés me semblaient bien ingrates pour les maestros en fin de parcours. Mais quelle solution proposer? Certains d'entre eux perdent vraiment la main. D'autres ne sont plus la saveur du jour. Les générations montantes ignorent parfois leur nom. Je scrutais le visage de Forman, géant du 7e art, immense directeur d'acteur, grand adaptateur d'œuvres littéraires, en voyant de concert l'homme marqué au sceau de l'histoire. Ses traits portaient encore ceux de l'orphelin de parents résistants morts dans les fours d'Auschwitz, du confrère de classe de Václav Havel, du père de la nouvelle vague tchèque en exil américain après la répression du printemps de Prague en 1968. Lors des conférences de presse, il manifestait un peu d'irritation. Trop de questions portaient à ses yeux sur Amadeus, son film aux 8 Oscars, en partie tourné à Prague. « Interrogez-moi plutôt sur mes projets », demandait Forman. Mais les rivalités entre Mozart et Salieri revenaient sur le tapis. Prisonnier de son plus grand succès malgré les nombreux joyaux de son parcours et les visées d'avenir qui le hantaient. De sa période tchèque aux iconiques Las de Pique, au feu Les Pompiers, Les Amours d'une blonde, à ses grands films américains, son âge d'or tissé d'ironie fine et de puissance d'évocation aura été de longue portée, mais pas éternelle. Le legs final. J'avais vu sur cette planète des festivals Francis Ford Coppola, à peu près dans la même position que Forman. Mais le cinéaste d'Apocalypse Now, après une faillite financière en plus, avait compris n'être plus en position de viser les méga-productions internationales. Alors, il réalisait des films d'auteurs à petit budget. Lui, c'était l'évocation du parrain, même celle du premier des trois volets, si réussi, qui l'énervait. Coppola considère la saga des Corleone comme une œuvre de commande et n'aime pas que les gens la lui ramènent sans cesse au visage. L'erreur de Forman fut sans doute de ne pas avoir abaissé ses prix après un échec commercial en privilégiant un film indépendant, quitte à reprendre du pic si le succès se pointait au rendez-vous. Il avait toujours rebondi. Pourquoi pas cette fois encore? Se demandait-il. Après tout, à l'échec de son premier film américain, Taking Off, aura succédé en 1975 le triomphe de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce film sur l'homme en butte à une institution sans âme, son thème d'élection, porté par Jack Nicholson, avait valu à Forman une première pluie d'Oscars avant Amadeus et le statut de cinéaste culte. Après son départ, je ressens en écho le choc de modernité venu de Hair, comme l'éblouissement d'Amadeus, l'émotion devant Will Sanson, Samson, en chef Bromden, géant dans Volodyni Koukou, l'ambiguïté géniale de sa satire Man on the Mood, le scandale entourant son Larry Flint en 1996, ours d'or à Berlinale pourtant, dénoncé par plusieurs comme la glorification d'un pornographe. Et j'ai eu envie de revoir son Valmont, adapté du roman épistolier de Coderlos de Laclos, tout comme les « Liaisons dangereuses » de Stephen Frears, sorties 9 mois plus tôt, en lui faisant tant d'ombre. J'espère juste que Miloš Forman, qui éclaira de sa torche vive le 20e siècle tourmenté et les soubresauts de l'histoire, a senti en partant l'immense legs qu'il aura laissé derrière lui pour mourir enfin apaisé et fier de lui. chronique d'Odile Tremblay dans Le Devoir d'aujourd'hui. Festif, 64 artistes à Baie-Saint-Paul, né de la seule volonté de jeunes de Charlevoix, le Festif est devenu en quelques années un incontournable du circuit estival des festivaliers québécois. Et cette année, ceux qui feront la route jusqu'à Baie-Saint-Paul auront droit à une belle ribambelle de prestations, notamment sur la grande scène avec toute la bande de l'hommage Desjardins, On l'aime-tu? Patrick Watson, Hubert Lenoir, Vincent Vallière et Tikinja Fakoly. Dans le sous-sol de l'église, sous les chapiteaux dans les ruelles ou sur le quai, il y aura aussi Galaxy, Mara Tremblay, Philippe Braque, Mac, Matt Ouloubon... Pardon, j'ai de la misère avec ce nom-là. Matt Ouloubowski, Fred Fortin, Keith Kuna, Marie-Jo Thériault, Milk and Bone, Émile Bilodeau et plusieurs autres. La formule des spectacles surprises tenus dans des lieux insolites et annoncés à la dernière minute est aussi de retour, du 19 au 22 juillet. Un cinéphile en vacances, le cinéaste québécois Denis Villeneuve fera partie du jury de la compétition officielle du 71e Festival de Cannes dès le 8 mai. Et il compte se rendre sur la croisette dans un état d'esprit de cinéphile en vacances. « Je vais laisser le réalisateur à la maison, dit-il. Je vais revenir au plaisir premier du cinéphile, un plaisir égoïste. » Télévision, Claude Legault sera la vedette d'Appelle-moi si tu meurs, une série produite par Zone 3 pour le club Illico qu'il co-signera avec son complice de Minuit le soir et Dans une galaxie près de chez vous, Pierre-Yves Bernard. La présidente et chef de la direction du groupe TVA et chef du contenu de Québécois Contenu, France Lausière et la présidente et chef de la direction de Vidéotron Manon Brouillette ont profité du congrès de l'Association québécoise de la production médiatique à Gatineau pour faire cette annonce ainsi que pour dévoiler un accroissement des investissements en production originale au Club Illico. D'une seule série québécoise à sa création il y a 5 ans, la plateforme est passée à 5 par année. Aucun détail sur l'histoire de cette nouveauté n'a été révélé. Et dans la section Planète Art, dans la presse d'aujourd'hui, plusieurs photos, notamment celle évocatrice l'Arabie saoudite qui a tenu hier une projection privée du film Black Panther pour souligner l'ouverture prochaine de cinéma dans le royaume. Les autorités ont organisé cette séance dans une salle de concert de la capitale Riyad convertie en cinéma. Des billets seront mis en vente aujourd'hui en vue d'une première projection publique demain.
Amen. Il y aura du monde à l'enterrement, si l'on en croit les apparences. S'ils viennent tous à l'enterrement, ce que je trouve avec outrance, couché là sur mon paillasson, lorsque je n'y suis pour personne, ou pendu avec des raisons au fil de mon téléphone, ou pendu avec des raisons au fil de mon téléphone. Il y aura du monde, assurément, au nom du Père, au nom du Fils, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que j'aimais de père en fils, ça me fera un gentil régiment, me rendant les derniers offices, pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement, pour mes bons et loyaux services, le jour de mon enterrement, les celles qui je l'ai bien connues, les pas belles, les cancanières, les celles qui ont de la vertu et de bien méchantes manières, viendront dans leur robe de bal me dire un petit compliment pour ma dernière générale, le jour de mon enterrement. Pour ma dernière générale, le jour de mon enterrement. clairement les mondains, les encanaillés. Et mesdames, les sous-préfètes, trois petits fours et deux AV, à la fête comme à la fête, se diront pour passer le temps, à voix basse des bagatelles, tout en se repassant la pelle, le jour de mon enterrement, tout en se repassant la pelle, le jour de mon enterrement. Ah, je voudrais rien qu'un instant les voir sur la dalle froide, agenouillés et marmonnant, en avant pour la mascarade, ceux qui viennent et font semblant, effeuillant d'une main distraite, du bout du cœur, du bout des gants, un chrysanthème, un je regrette, un peu beaucoup passionnément, le jour de la dernière fête, le jour de la dernière fête, le jour de mon dernier matin, le jour où je me ferai belle, le jour où, salut les copains, je pars pour là-bas, on m'appelle, j'irai cultiver mon jardin, j'irai voir fleurir mes roses, de l'autre côté du chemin, de l'autre côté du chemin. Ça fera du monde à l'enterrement, et fini la douce habitude, celle-là de passer mon temps, à vivre dans la solitude. Je sens qu'au dernier rendez-vous, non, non, je ne serai pas seulette, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement. Je veux que ce soit au printemps, à l'heure de la belle lumière, je veux m'en souvenir longtemps, de l'heure de mon heure dernière. Et lorsque je serai couché, au-dedans de la bonne terre, oh vous tous que j'ai tant aimé, durant cette vie tout entière, si vous entendez. Ma dernière petite chanson, surtout n'en ayez pas de peine, c'est pour dire adieu, je vous aime, et je m'en vais le cœur content. C'est pour dire adieu, je vous aime, le jour de mon enterrement, le jour de mon enterrement.
On vient d'entendre Benabar avec le pianiste Alexandre Tarot qui nous chantait « Il y aura du monde ».
Mathieu avait raison, il est derrière Maurice. Alors, vous avez entendu sa belle voix qui a deviné que c'était Benabar. Et oui, c'est très beau hein, comme chanson, comme interprétation avec le pianiste Alexandre Tarot. Mathieu qui, soit dit en passant, vous retrouverez demain à la mise en onde en compagnie de François Brodeur qui sera là à ma place. Alors, allons-y avec les sujets libres. Des centaines de spatules, c'est un texte signé Mathieu Bock-Côté. Souvenir d'adolescence, il date de 1996. Des parents un peu tordus, manifestement, avaient décidé de prénommer leur enfant Spatule. Apparemment qu'ils parlaient de l'oiseau du même nom et non de l'ustensile de cuisine. Qu'importe, l'état civil s'y était opposé. Après une bataille judiciaire, les tribunaux avaient refusé d'endosser ce prénom. Leur raison, ils risquaient de condamner l'enfant au ridicule. L'État se reconnaissait le droit de protéger les enfants contre les excentricités de parents immatures. En lisant avant-hier sur le site du Journal de Montréal la liste des prénoms inusités de 2017, je me suis dit qu'il y avait désormais annuellement des centaines de spatules et que les autorités avaient renoncé à lutter contre le ridicule. Le courant de la bêtise est trop fort. Petite sélection. Ophélie écrit O majuscule apostrophe F majuscule E-E-L-I-E. Emilou, Winner, Tommy Jacuzzi, Ziggy Love Sparrow, Happiness N-A-I-S-S et Casey Pitchounette. J'aurais pu en relever d'autres, notamment tous ceux qui reprennent un prénom connu pour en réinventer l'orthographe. On aurait envie de dire « Parents, je vous juge ». Nous ne sommes pas ici devant un fait divers, mais devant une réalité sociale qui témoigne de la puissance d'un individualisme devenu morbide. Les parents qui affublent leurs pauvres enfants de prénoms aussi grotesques témoignent d'un désir d'originalité devenu fou qui les pousse vers un comportement antisocial nuisible à leur progéniture. Il y a des limites à faire de son bébé un cobaye. Pensent-ils vraiment assurer un destin exceptionnel à leur enfant? Croient-ils devoir lui inventer une personnalité à partir de rien? Comment ne pas voir là une forme d'infantilisme? Pour reprendre les mots de Louis Powell, Il y a sans doute dans chaque homme un enfant qui ne veut pas mourir. Mais il y a dans trop d'hommes un adulte qui ne veut pas naître. Il y avait déjà quelque chose d'agaçant à voir des parents québécois donner des prénoms anglais à leurs enfants, comme s'ils programmaient inconsciemment leur assimilation. Mais là, on passe à un autre niveau. On y verra aussi le signe d'une profonde déculturation. On en vient à oublier qu'un prénom, en général, réfère à une histoire. Il s'inscrit dans une culture. Il peut évoquer des souvenirs, témoigner d'une admiration, rendre hommage à un parent ou à une personnalité historique. Autrement dit, si un prénom singularise un individu, il l'inscrit aussi dans une communauté. Détail supplémentaire, on n'oubliera pas qu'au même moment, dans les classes aisées et culturellement avantagées, on redécouvre les vieux prénoms français. Le prénom est un marqueur social et identitaire. Le prénom devient ici un marqueur potentiel d'inégalité sociale. Ce n'est pas sans raison que pendant longtemps, les immigrés donnaient un prénom local à leur enfant. C'était une manière de s'intégrer à un peuple. Quelquefois, ils allaient même jusqu'à franciser le nom de famille. Cela envoyait un signal fort d'intégration. Chose certaine, cette histoire de prénom est un incroyable révélateur du fait que notre société devient aujourd'hui une dissociété. Des centaines de spatules, c'est la chronique de Mathieu Bocoté dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Dans vos poches, la chronique de Stéphane Desjardins, les dangers de prêter de l'argent à un proche. Selon des études, plus de 60 % des Québécois ont prêté de l'argent à un proche et le quart n'a jamais revu son fric. L'amour et l'amitié, l'argent et l'amitié ou l'amour font rarement bon ménage. Il y a des conséquences à prêter de l'argent à votre ami, conjoint ou enfant. On prête à un proche en cas de maladie, études, perte d'emploi, achat important s'il se lance en affaires ou consolide des dettes, s'il a un mauvais dossier de crédit ou veut établir une mise de fonds pour acheter une propriété. Avant de prêter, il faut être certain qu'on sera remboursé ou qu'on ne reverra jamais l'argent. Si vous êtes mal à l'aise, refusez, quitte à endurer un froid plutôt que d'être frustré ou de mettre fin à une relation. Inversement, on évitera de solliciter un emprunt pour ne pas subir reproches ou messages répétés qu'il vous a sauvé la vie. Conséquence, d'autres membres de la famille perçoivent le prêt comme du favoritisme. Un prêt peut encourager un comportement néfaste qui cause l'endettement. Un prêt consenti à un proche majeur peut être imposé si l'emprunteur verse de l'intérêt à un taux annuel supérieur à celui de Revenu Québec, autour de 3 %. Fiscalement, parfois, le prêt doit être remboursé en un an. En cas de décès, un prêt important est-il inscrit au testament et est-il déduit de l'héritage de l'emprunteur? En cas de faillite de l'emprunteur, seules les garanties notariées sont reconnues. Si l'emprunteur est mineur, les recours sont limités. Être contre-signataire affecte négativement votre cote de crédit. Si le prêt n'a pas été remboursé au bout de 3 ans et que vous n'avez fait aucune démarche de recouvrement, dites adieu à votre argent. Comment dire non? Dites simplement que malgré les apparences, vous n'avez pas les moyens. Vous avez été échaudé par le passé. Donnez un exemple. Aidez autrement. Payez une passe d'autobus au lieu de financer les réparations d'une voiture. Répondez que vous allez réfléchir et reprenez la discussion devant témoin. Aiguillez l'emprunteur vers un conseiller financier, la CEF, un syndic de faillite. Comment prêter? Pour les montants de plus de 500 $, exigez une reconnaissance de dette comprenant échéance, conditions et intérêts, car c'est vous qui prenez le risque. Si l'emprunteur est en couple, inscrivez qui est responsable. Prêtez un montant acceptable et émotivement et financièrement, seulement si vous avez la conviction de faire une différence. Ne prêtez jamais si vos propres finances sont en danger ou si on vous met de la pression. Informez-vous régulièrement de la situation de l'emprunteur si celui-ci a de la difficulté à vous rembourser, sans jamais être autoritaire. Pour les montants importants, 5 000 passez devant le notaire et exigez des garanties écrites en cas de défaut ou de faillite. Consultez un conseiller financier, un fiscaliste ou un comptable. Tenez un conseil de famille. Conservez les documents prouvant le prêt et les paiements, chèques, Interact, PayPal, virements bancaires. Évitez les transactions comptant. Un registre, date, numéro de versement ou de chèque, montant, élimine les mésententes. Livraison de repas 357. Depuis le lancement à Montréal de l'application Uber Eats il y a exactement un an, le client le plus fidèle a commandé 357 fois. Parmi les autres données intéressantes compilées par l'entreprise, qui compte plus de 1000 restaurants partenaires dans la métropole, notons que 54 % des livraisons sont faites pour le souper, alors que près de 19 % d'entre elles sont effectuées tard dans la nuit. Uber Eats a aussi révélé les mets les plus populaires selon les quartiers. Ainsi, on mange surtout des pad thai dans Hunsick, Cartierville, Anjou et Saint-Laurent. Les shawarmas et les falafels sont prisés dans la Chine, l'ouest de l'île, Verdun, Côte-Saint-Paul-Villemar, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel. Et dans la petite Italie, c'est évidemment la pizza. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne l'émission Le quotidien des quotidiens. J'espère que ça vous a plu. Puis peut-être que je vous ai mis en appétit en parlant bouffe en terminant. Ben bon appétit parce que midi approche. Mais juste avant, c'est l'émission L'hyperactualité. J'aurai le plaisir de recevoir en entrevue téléphonique Chloé Sainte-Marie. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. À la prochaine.